le Festival Cinéma d'Afrique, à écouter sur radio.django.fm.
Alors on va parler à présent de rétrospective humour et satire avec toi Stéphane, et la première séance pardon, aura lieu demain à 15h au Cinématographe.
Oui, c'est une rétrospective qui est assez intéressante parce que finalement elle est à l'image un peu du festival parce qu'elle est très concentrée, il y a seulement 5 films dont 3 courts-métrages. D'un autre côté, elle couvre quand même un large panel de thèmes et aussi de genres. Il y a notamment un western, il y a une comédie musicale, il y a une comédie de mœurs, enfin même 2, plus un making-of, ce qui en plus est très rare pour l'époque. Et au niveau aussi géographique, donc, il y a des films du Niger, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et du Congo-Kinshasa.
Alors explique-nous peut-être en 2 mots le déroulement de ces rétrospectives.
Alors en fait il y aura 3 séances, donc oui. Une première avec les 3 courts-métrages et autrement chaque fois un film, et normalement elles seront ou devaient être présentées par Baba Diop qui normalement devait venir ce soir au micro de Radio Django. Malheureusement il a raté son avion
et c'est des choses qui arrivent,
voilà, surtout quand on est bloqué dans les embouteillages, oui. Comme lui. Et donc par contre ce soir on a la chance d'avoir Olivier Barlet qui le remplace au pied levé.
Voilà, vous êtes un peu notre joker, hein, on peut le dire comme ça. Bonsoir Olivier Barlet.
On va le dire, ouais.
Vous êtes chroniqueur cinéma à Africulture et vous serez présent pendant ces différentes rétrospectives et vous parlerez des films, finalement vous les critiquerez.
Oui, en tout cas je vais suivre le festival le mieux possible en voyant le maximum de films comme à mon habitude.
Alors bon, on parle de critique, on vous nomme critique de film. Critique, on a souvent cette connotation un petit peu négative, mais vous dites du positif, rassurez-nous.
Oui, de toute façon, critiquer, c'est pas dire c'est blanc, c'est noir, j'aime pas, etc. C'est aller un peu plus loin, surtout pour des cinématographies qui demandent un petit peu plus d'approche, quoi. Donc non, la critique, c'est quand même un exercice, on va dire, intellectuel, puisque c'est de l'écriture et qui cherche à approfondir un petit peu les contenus des films, leur esthétique, les rapports entre les deux, etc.
Alors, le premier film de la rétrospective, enfin celui qui va être diffusé demain en premier, projeté en premier, c'est Le retour d'un aventurier de Mustapha Alassane. Alors, donc Mustapha Alassane nous a malheureusement quitté l'année passée à 73 ans, ce qui est quand même un âge relativement...
Oh, respectable, hein.
Oui, surtout en Afrique.
Ouais.
Et, alors, mais en fait, c'était un peu qui, Mustapha Alassane?
C'est un fou, Mustapha Alassane. Je veux dire, c'est un type qui d'abord commence par un western, ce qui en Afrique était quand même... En 66, hein, c'est-à-dire vraiment les débuts du cinéma africain. Je veux dire, Borom Charette, premier film réalisé en Afrique par un Africain en Afrique subsaharienne, date de 63. Hein, donc on est vraiment dans les fonds baptismaux du cinéma. Et il arrive avec un western. Et puis d'autre part, il a continué ensuite à faire des films assez incroyables. Il a fait énormément d'animations. Et il s'est monté dans son bled paumé du fond du Niger, un studio d'animation super élaboré où il a continué ce travail-là, quoi. Donc c'est il se finançait en ayant un hôtel, voilà, parce que où il y avait, je sais pas d'ailleurs qui passait par là, parce que c'est vraiment quand même très éloigné,
oui,
de tout.
Oui, oui.
Et d'ailleurs il y a Christian Lelong qui a fait un film sur lui qui est assez remarquable comme ça, qui était un peu une biographie. Mais en tout cas oui, c'était à ce niveau-là, c'était un fou, quoi. Oui.
Déconcentré, hein, c'est,
oui,
déconcertant, tous, oui, ces propos.
Exactement. Non, franchement.
Bon, après, c'était un type extrêmement sympathique et qui était marrant parce que quand on le rencontrait dans les festivals, il est comme s'il sortait du fin fond du Niger. Je veux dire, il se la jouait pas, quoi. Il était complètement naturel et dans son truc et avec son objectif de faire des films, et il a fait, quoi. Je veux dire, il a vraiment réalisé, quoi.
Mais en fait, déjà, un western, donc c'est déjà surprenant en Afrique subsaharienne, mais en plus, un film d'animation, enfin, en plus, il n'en a pas fait qu'un seul, parce qu'il a fait donc du dessin animé, il a fait aussi de l'animation de poupées, enfin, de marionnettes, même. Comment est-ce qu'il est venu à l'animation?
Ah bah, il avait envie, il avait des personnages, et ces personnages, c'était plutôt des films d'animation, il y a des grenouilles, il y a des trucs, et donc il avait envie d'exprimer ce qu'il avait à dire de cette manière-là, quoi. Bon, il n'a pas fait que ça, hein, mais enfin,
ouais.
Le retour d'un aventurier n'est pas un film d'animation, mais il aimait bien ce truc-là, puis en plus, c'est un travail de solitaire, ça correspondait pas mal à la fois à son caractère et sa situation géographique, on va dire.
Ouais, et puis aussi, bon, après, il y a une autre question en fait que ça soulève aussi. donc, notamment au niveau de ses films d'animation, c'est que, par exemple, Bon Voyage Tim, il l'a mutilé. Donc, il avait, semble-t-il, très peur donc, de la censure, enfin, pas de la censure, justement, mais très peur du pouvoir politique. Et il avait... Il s'est auto-censuré assez fortement et je pense aussi que cet exil volontaire au fin fond du Niger n'est pas totalement anodin.
Oui, c'est-à-dire qu'il fait partie de la première génération des cinéastes. Hein, et donc, c'est une génération qui s'est quand même confrontée aux nouvelles élites politiques qui disaient les choses assez crûment. On connaît le cinéma de Sam Ben, etc. Et du coup, y avait cette question-là qui se posait. Quoi. Alors effectivement, sa réponse était de traiter les choses avec distance et avec ironie et en tournant un peu autour du pot. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, grosso modo, sa production s'arrête quasiment au tout début des années 80.
Non, et oui, il a continué, mais ça, on voyait plus grand chose qui arrivait. Ouais, c'est-à-dire qu'il continuait. Il a fait beaucoup de formations des jeunes aussi.
Oui, ça. Oui.
Donc, du coup, il s'est pas mal concentré à ça. Et puis, après, le problème, c'est qu'avec ses moyens, il a pas pu suivre le tournant de la technique de l'animation, quoi, hein, parce que les choses se sont quand même pas mal accélérées à ce niveau-là.
Parce qu'en fait, les dernières nouvelles que j'ai eues, moi, ils travaillaient sur un logiciel, semble-t-il, informatique, pour que tout le monde puisse faire des films d'animation. C'est assez intéressant, quand même.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, non, c'était vraiment sa démarche. Ouais.
Finalement, son objectif, là, derrière, c'était quoi ? C'était de lancer la possibilité de faire un film d'animation pour tout le monde ?
Oui, c'était... Mais de toute façon, la démarche de ces cinéastes de cette époque, c'était de ne pas jouer les ovnis qu'ils étaient au début, mais qu'il y ait véritablement une jeunesse qui fasse du cinéma. Quoi.
Et puis c'est atteint, c'est un objectif qui réussit ?
Oui.
Selon vous ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que... Non, parce que sa voix... Alors, le cinéma d'animation, il y en a pas mal en Afrique. Hein, enfin, c'est pas exactement la voix de Mustapha Alassane qui a été suivie. Mais par contre... il y a quand même un cinéma nigérien aujourd'hui qui existe, qui est quand même beaucoup dans le documentaire, beaucoup plus.
Mm-hmm. À présent, je vais vous proposer d'écouter la capsule que j'ai faite à propos du retour d'un aventurier. Et après, si vous le voulez bien, vous pourrez réagir en fonction
On décapsule. Donc.
Voilà,
on décapsule. Alors, on va décapsuler tout d'abord. On écoute le retour de l'aventurier.
Le retour d'un aventurier, malgré ses faiblesses techniques, en particulier au niveau sonore, est un film réjouissant à plus d'un titre. Déjà, c'est un vrai western, pas une insanité filmique pseudo-intellectuelle du type du Whitey de Fassbinder. Le métrage est ainsi truffé de scènes d'action, d'électrisantes bagarres, en particulier celle du Bar Saloon, et de chevauchées sauvages dans une savane s'étendant à perte de vue. Âpre décor naturel, qui n'a d'ailleurs strictement rien à envier graphiquement au paysage convenu de l'Ouest américain.
Écoute, jeune homme, j'ai connu un chasseur. Il voudrait chasser une ours avec une canne. Dites-moi, si tu ne te dégages pas d'ici, je te ferai la même chose.
Mais il s'en a rien.
Surtout, outre ces aspects purement divertissants, auquel il faudrait voir à ne pas oublier d'ajouter le charme juvénile de la ravissante Zelika Soulet, le film aborde des problématiques telles que le conflit des générations, de même que les impacts, pas toujours intelligemment maîtrisés, que pouvaient avoir à l'époque les intrusives influences étrangères, soi-disant modernistes, sur les sociétés traditionnelles africaines.
Alors Olivier Barlet, qu'est-ce que ça vous évoque, cette capsule ?
C'est bien décapsulé. Non, mais je crois que il y a une sorte de malentendu avec le premier film donc de Mustapha Alassane quand on dit que c'est un western. C'est vrai qu'il utilise les codes du western. Il y a des poursuites, on voit des gars et qui sont déguisés en western, quoi. Mais son propos est complètement ailleurs. Hein. Je veux dire, il a envie de dire des choses et il a envie de dire des choses directement sur la question du rapport des anciens et des jeunes. Mmh. Donc les jeunes qui arrivent avec une culture de l'ailleurs, qui viennent introduire comme ça des éléments symboliques de cette culture de l'ailleurs et qui viennent mettre un sacré chaos dans le village quand même. Donc comment les anciens réagissent, etc. C'est ça l'histoire du film finalement. Ouais. Quoi. Et donc, on est véritablement dans la question de une jeunesse qui veut développer, puisqu'on est dans les années 60, hein, donc au moment des indépendances. Donc, une jeunesse qui veut développer les pays, qui veut sortir du colonialisme et donc le réaliser au quotidien à tout niveau. Et puis, ben, on a les anciens qui sont encore là à défendre un certain nombre de positions, aussi bien qu'une certaine vision du monde. Et il y a une confrontation, c'est un conflit de génération.
Alors, maintenant, on va enchaîner avec Les Cowboys sont noirs, qui est en fait un film sur le film. Donc, c'est un documentaire qui a été réalisé par Serge-Henri Moati sur le film de Mustapha Alassane. Et donc, j'ai aussi enregistré une capsule par rapport à ce film. Donc, on va l'écouter. Et après, rebelote, comme dans Bas de poussière, vous pourrez réagir à la capsule.
On en débriefera dans quelques instants.
Les Cowboys sont noirs. Davantage qu'un making-of avant l'heure, même si on y voit effectivement le jeune Mustapha Alassane et son équipe au travail, est surtout une réflexion amusante autant que pertinente, véritable document sociologique, sur la manière dont pouvait être perçu le 7e art au milieu des années 60 en Afrique de l'Ouest. Sur la confusion aussi existant dans l'esprit de nombre de spectateurs entre la réalité quotidienne et la fiction cinématographique.
Venez maintenant avec moi pour des démonstrations.
Désormais,
tu es Black Cooper, James Kelly, Castou, Billy Walter et toi, Reine Christine. Vous avez tous compris ?
Oui, oui, c'est compris.
Un thème qui sera d'ailleurs à nouveau au centre, près de 40 ans plus tard, d'Alessi, une actrice africaine, le documentaire de Ramatou Keïta. Sauf qu'entre-temps, le joyeux enthousiasme des post-indépendants s'étant irrémédiablement égaré dans la savane, où il a été dévoré tant par les autocrates locaux que par les mercenaires à la solde du néocolonialisme, le constat de l'aventure n'est plus dès lors qu'amertume et juste ressentiment.
Ouais, finalement, c'est pas tout à fait qu'une couleur, une question de couleur, hein, ces histoires de cow-boy, Olivier Barlet.
Oui, là, on est vraiment dans la question de l'acteur. Hein. C'est-à-dire qu'on est... on est à une époque où... le spectateur ne fait pas forcément la différence entre ce qu'il a sur l'écran et la réalité. Mm-hmm. Donc, on est, alors là, c'est des cow-boys. Il y a d'autres situations où c'est quelqu'un qui a le sida ou des choses comme ça. Par exemple, comme le premier film de Mohamed Saleh Haroum, Bye Bye Africa, où on voit une femme qui est rejetée par tout son environnement parce qu'il lui a fait jouer le rôle d'une sidéenne. Donc, on est dans cette situation-là. Alors, ce qui est très croustillant dans l'histoire qu'on voit dans le film, c'est que les personnages se prennent véritablement comme des héros de western, y compris dans la vie. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils le jouent. Le film les prend un petit peu comme ils seront dans la vie. Quoi. Et donc, ça correspondait à l'époque beaucoup à une position comme ça. Les gens voyaient des westerns et puis après, ils se prenaient des noms de héros de western et ils jouaient les héros de western dans la vie également. Quoi.
Voilà. Et puis comme ça a été plus ou moins sous-entendu, donc c'était pas forcément la norme à l'époque de faire des making-of comme maintenant. Même s'il y a eu des antécédents célèbres comme le film Autour de l'argent de Jean Dréville sur le tournage du film de Marcel Lherbier. Mais donc qui était Serge-Henri Moati et comment s'est-il retrouvé dans la situation de faire ce film sur le film? Enfin, quel est un peu son parcours Donc, normalement, semble-t-il, il gravitait autour de l'Institut de recherche en sciences humaines, refondé peut-être plutôt par Jean Rouche, où justement Mustapha Alassane a aussi fait ses premiers films.
Voilà. Alors, moi, je ne connais pas bien la bio de Moati. C'est un grand homme de télévision, Moati, hein, qui a fait quand même vraiment des films très engagés, prenants, forts.
Oui, il a aussi été conseiller de Mitterrand. C'est lui qui a fait un espèce de...
Tout à fait, c'est lui qui s'occupait de la
com.
Protocole, ouais.
Oui, voilà, exactement, de protocole de communication.
Oui, tout à fait. Après, bon, là, on est en 66, donc il était jeune. Et effectivement, il a fait partie de ce staff de gens qui déboulaient à Niamey, invités par Rouche. Sous égide donc centre culturel français franco-nigérien quoi et on permis à un certain nombre de personnes comme ça d'émerger et de réaliser peu à peu un cinéma nigérien quoi donc il y a eu des cours, il y a eu des formations, il y a eu des séminaires, il y a eu des tas de trucs et donc il venait un petit peu dans ce dans cette dynamique-là. Quoi. Ça foisonnait pas mal à cette époque-là. Le Niger a été un des pays fondamentaux, comme ça, des débuts des cinémas d'Afrique. Ouais.
Un autre, justement, une autre... L'ombre, disons, de Jean Rouch plane aussi assez fortement, je trouve, sur Les Cowboys sont noirs, notamment au niveau de la manière dont sont présentés les protagonistes enfin, des deux films, en fait, à la fois dans leur vraie vie et en tant qu'acteurs de cinéma. Et, personnellement, je rapprocherais ça passablement donc du final des Maîtres fous, le film très controversé de Jean Rouch, où après... tout le rituel de possession, on retrouve en fait les adeptes de la secte mais métamorphosés, enfin comme vous et moi, dans leur activité quotidienne.
Oui, bah, c'était un peu la technique Rouch avec le cinéma direct, etc. C'est-à-dire que son truc était de prendre des gens du quotidien et de leur faire jouer leur rôle quelque part. Quoi. C'est ce qu'il a fait dans Moyen Noir avec Oumaru Ganda, donc grand cinéaste nigérien, qui est devenu grand cinéaste nigérien par la suite, et qui était un docker sur le port d'Abidjan. Mais après, Oumaru Ganda a beaucoup critiqué Rouch en disant qu'il ne lui avait pas du tout laissé la liberté qu'il revendiquait justement dans sa méthode. Quoi. C'est-à-dire que Rouch, finalement, il augmentait un petit peu la dose par rapport à... Enfin, en tout cas, il était beaucoup plus autoritaire qu'il ne prétendait le dire. Quoi.
Semble-t-il,
c'est des vieilles polémiques, mais enfin, en tout cas... Oui.
Semble-t-il qu'Edgar Morin a eu le même souci avec Rouch pour le montage final de Chronique d'un été.
Tout à fait. Voilà. Qui est un très beau film par ailleurs. Hein, mais oui. Le résultat, on ne le voit pas toujours.
Non, mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas quand même inhérent au cinéma, donc ce côté un peu dictatorial du metteur en scène?
Alors, les cinéastes ne me regardent pas, là, je peux y aller. Mais,
ils ne vous écoutent pas non plus.
Voilà, l'ego des cinéastes, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est nécessaire. Hein, je veux dire, on ne fait pas du cinéma si on n'a pas un peu d'ego.
Oui,
alors, bon, après, voilà, ça a des conséquences.
Voilà. Alors maintenant, on va écouter un premier extrait musical.
Oui, c'est quelque chose que tu as choisi, hein, Stéphane.
Voilà, alors la chanson Panibo de Viva la Musica. Viva la Musica, c'est donc le groupe qui a été formé par Papa Wemba après avoir quitté Zaiko Langa Langa. Et ensuite encore, où c'est que j'ai mis mes notes? Ah, ben j'ai perdu mes notes. Voilà, Yoka Lokole.
Voilà, il quitte tout le monde et puis il fait ça.
Exactement, ouais, bah, oui, c'est le côté, bah, ça rejoint le côté un peu égo des cinéastes, vu que les musiciens congolais, Congo Kinshasa, ont toujours eu un peu des grosses têtes. Donc...
j'ai cru autre chose.
Peut-être aussi, j'ai
pas
été vérifié.
Ça ne nous regarde pas, voilà.
Non, exactement.
Absolument, restons.
Donc, je vous propose d'écouter ce morceau tiré de la compilation L'Afrique Danse qui est sortie en 1978.
C'est parfait, c'est pour vous et c'est sur Radio Django qui couvre le festival Cinéma d'Afrique édition 2016.
Le festival Cinéma d'Afrique de 18 à 21.
Mba mote maya moto hokwe isindaka Koboya tanibo moki lise bongo Zua nongai mama atama tabisi Loboko ya mwasi esimbi mwa esperanza Ya mobali tena kobangande ojuengai Yo mwasi kitoko mibali balandaka Anibo ma soeur d'un jour et de tous les jours Mes chéris dans ma demeure car mon cœur est plein d'amour Anibo ye ye Anibo lo bela ngana emba o mama so ki la mure beli e paina ye Zala na ngai na bone ko e mwana mwasi oyo nana pona kana ke la mapo ete ya ka wine pela na ndako na ngali tombe na pona na nga boli kone sika ya liwa Anibo na sengi opesa nga tandato Bolingo la se etumba mota utada muna eva imen Anibo oh, 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 oh. Zala nangana bonde kwe mwana mwasi oyo
nana panaka na kela mapoyete yaka wine pela nana panaka likombe na panana nga polikone sika yaliwa anibona sengi upesa nga kandoto polikona se etumba moto utata muna eva ime anibo
chérie, ya motema mama, ya bonde kopé, boyona bona, aniaka na bolingolanga mama yeo, na kitoko zalaka moya pokwa, na bipale mama, koaya zotwanina, ania bolingo motema pema bazo, na bonze mama ina biso ya esenga, anibue mama, oyebo. Loba moto na ebi e pesa ka mote mate ani loba ah mama loba nazala lokola mopa ya naze ambula ebe a lo kombe la malanga ye la malanga mi o la langa jo ani bo serie ani bo nanga ani bo serie ani bo nanga sojo linginga oyo lo kombe Bébéa,
bébéa, bébéa, bébéa, bébéa, bébéa,
L'orchestre Viva la Musica avec ce titre Penbouille, un choix de ta part, hein, Stéphane, tu es grand connaisseur de musique africaine.
Ouais, j'essaye en tout cas.
Ouais, en tout cas, c'est l'occasion de s'y mettre.
Voilà.
On est toujours. Oui.
Ah non, c'était juste pour enchaîner. Donc, c'était pour dire simplement que c'était le groupe de Papa Wemba qui est justement l'interprète principal du film La vie est belle. Et dont j'ai toujours consacré une capsule. On va l'écouter et après, Olivier Barlet va, s'il est d'accord.
Ouais. Et bien, faire réagir, exactement, notre critique de cinéma à Africulture notamment. Mais on écoute cette chronique.
La vie est belle ne brille certes pas par l'originalité de son histoire. La fable, au moins déjà 100 fois racontée sur grand écran, du villageois monté à la capitale en quête d'amour et de richesse. Toutefois, il se distingue des semblables produits hollywoodiens par la truculence typiquement africaine de son alerte narration, autant que par son caractère subtilement documentaire, instantané joyeux d'un Zaïre pas encore au bord du gouffre où sont omniprésentes la musique, la débrouille et la solidarité. Mais par-dessus tout, ode attachante au vivre ensemble, qu'importe le caractère ou l'apparence physique de chacun. L'œuvre, n'hésitant pas à réaffirmer une vérité chère à la sagesse populaire, à savoir qu'il faut de tout pour faire un monde.
Oh la vie est belle,
Maloba Yemoro Pimba.
Oh la vie est belle,
Maloba Yakoko Pimba.
Oh la vie est belle,
oh la vie est belle,
oh la vie est belle.
Débrouillez-vous, débrouillez-vous.
Enfin, c'est aussi l'occasion de revoir certaines figures incontournables, depuis tragiquement disparues, de la scène congolaise des années 1980. Papa Wemba, bien sûr, de même que Pépé Calé et le nain Emoro.
Bon, eh bien, Olivier Barlet, vous avez écouté comme nous cette chronique, quelque chose qui vous vient tout de suite sur la langue?
Oui, bah, Pépé Calé, le nain et Moreau, effectivement, ça c'est vraiment des personnages qu'on a trouvés dans beaucoup de films. Uh-huh. C'est vrai que Pépé Calé, c'est un roi de la musique congolaise. Et ce qui était dit tout à l'heure avec Papa Wemba, etc., c'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce pays quelque chose d'incroyable avec la musique, quoi. Et faire un film au Congo, quelle que soit l'époque, c'est faire un film sur la musique, quelque part, quoi. Je veux dire, on a toujours dit, c'est le Zaïre qui a fait danser l'Afrique, quoi. Les rythmes se retrouvent partout. Moi, chaque fois que j'ai dansé dans un truc en Afrique, quel que soit l'endroit, il y avait de la musique congolaise qui passait par là, quoi. Mm-hmm. Puis après, en étant à Kinshasa, alors à une époque, c'était... On est du côté de JB ou on est du côté de Verasson, quoi. C'est-à-dire les deux grands qui se faisaient complètement concurrence. Donc c'est un élément fondamental. Alors dans le film, c'est ça sa réussite, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a cet élément musique permanent comme ça, avec cette rengaine de La vie est belle qui revient comme ça qu'on a entendu.
On l'entendait bien dans ce titre, La vie est belle, la vie est belle. C'est un petit peu l'illustration qu'on pourrait dire de tous les titres, de toutes les musiques congolaises, ça reprend un petit peu le même champ lexical.
Oui et non, parce que quand même les textes sont très critiques. Hein. Ouais. Alors il y a les textes qui sont sur la vie quotidienne, il y a beaucoup de textes sur la séduction, etc. Sur le patriarcat, la réaction des femmes, etc. Tout ça, mm-hmm. c'est des thèmes très... très... Enfin, il y a des thèmes bien critiques à tout niveau, quoi. C'est quand même du contenu, toujours. Hein. C'est pas de la fleur bleue absolue, quoi.
Donc, le réalisateur de La vie est belle... Enfin, il y a deux réalisateurs, mais donc on va se concentrer sur le réalisateur congolais, plutôt.
Voilà, ouais. Pourtant, c'est co-signé.
Voilà, dont je ne sais pas prononcer le nom.
Oh, c'est facile, c'est Mouezine Dieudonné Gangoura.
Voilà.
Bah oui.
Hein, c'est facile. Moi, bon, bah je oui. m'entraînerai à la maison pour la prochaine fois.
C'est ça, pour demain.
Voilà. Dernièrement, il a eu, donc il a fait une annonce comme quoi il préparait une suite à La vie est belle avec Papa Wemba, mais malheureusement, donc le film ne se fera certainement pas vu que Papa Wemba est décédé.
Oui, mais lui aussi. Hein.
C'est des bonnes informations, effectivement. Oui, voilà. Ça ne se passe pas.
Hein. Encore, mais... il pourrait peut-être faire en image de synthèse.
Oui, voilà. Oui. On a ressorti des titres de Elvis Presley après sa mort. Voilà,
pourquoi pas. Et puis Nat King Cole qui chante avec sa fille. Et voilà, je sais. Bon. Le commerce n'a aucune limite.
Mais, et on lui, laisse... lui-même est décédé aussi l'année dernière.
Ah, ouais. Ouais.
Mais qui reste en vie?
Bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de morts quand même dans cette rétrospective, même si on y rit beaucoup aussi. Parce qu'Henri Duparc aussi, qui a fait Balle Poussière, est décédé aussi entre-temps. Mais voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, donc moi, j'aurais bien aimé entendre quelques mots en fait, sur ce réalisateur congolais dont je ne sais toujours pas prononcer le nom.
Mouezé.
Voilà, parce que Mouezé. C'est...
Et les Mouezé, si je reviens sur le nom, c'est que les Mouezé, c'est les gens de l'Est du Congo.
Ah, alors dans leur nom, ils portent le nom de la région d'où ils viennent.
Ah bah oui, ça, oui, 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 comme vous, hein. Si on va chercher, on va savoir.
Oui, d'accord, ok.
En tout cas, quand on arrive dans un village, le chef du village vous demande votre nom pour savoir d'où vous venez. Bon, après, quand vous le sortez votre nom, il est un petit peu désarçonné, il ne sait pas très bien, mais en général, il sait, quoi. Alors, donc, parce que Mouezé, il a commencé avec un film qui était sur, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais enfin, c'était La Vache, etc. Ça oui. reprenait un petit peu les...
Enfin, il en a fait avant, mais...
Oui, enfin bon. Ouais.
D'accord.
Enfin, en tout cas, il a pris un petit peu sa région d'origine comme terreau, comme ça, de cinéma au départ. Bon, après, il vivait à Bruxelles. Il a fait Pièce d'identité, qui est une comédie.
Voilà, donc, qui a reçu un prix au FESPACO.
Tout à fait, oui.
Qui
ouais.
est un très beau film. Enfin, moi, je trouve.
Oui, qui est très sympa, qui est vraiment à la fois une comédie et qui dit plein de choses, quoi, oui. Et qui est un peu une ethnologie à l'envers, ce qui est
exactement.
Quand même assez sympa
voilà,
aussi dans la démarche.
Qui rejoint un peu son autre film, son court-métrage Lettre à Makoura.
Tout à fait.
Qu'il avait fait 3 ans avant.
Oui.
Qui prolonge un peu cette réflexion, justement, d'ethnographie à l'envers. Ouais. Un peu comme chez Jean Rouch avec Petit à Petit.
Oui, qui est rare, en fait.
Oui.
Qui est rare dans la démarche.
Et autrement, il avait fait aussi en 2004, toujours avec Papa Wemba, Les habits neufs du gouverneur, qui a eu une distribution, semble-t-il, très limitée.
Oui, c'est un film un peu secondaire, quoi. C'est-à-dire que c'est une tentative de comédie musicale, mais qui... Voilà, qui...
J'ai lu votre critique, vous n'aviez pas l'air très...
J'étais pas d'un enthousiasme débordant, donc là j'ai du mal à l'être. non, ce n'était pas une réussite absolue. Quoi.
D'accord, mais par contre au Congo, ça a marché ou même pas?
Alors ça, je ne saurais pas vous dire, comme je n'habite pas là-bas, mais...
C'est vrai?
Ben non. non, ce n'est pas un film qui a marqué. Quoi.
D'accord. Ouais.
Après, il a fait, je crois, les dernières choses qu'il avait fait, c'était un documentaire sur Kinshasa, sur la ville, et notamment sur les artistes. Comme ça, il y a des villages d'artistes, comme
mais
ça, on se regroupe un petit peu.
Il est terminé celui-là, parce que moi j'ai l'impression qu'il est.
Ah oui, ça,
en...
je l'ai vu.
Ah d'accord.
Oui,
parce que moi, la dernière fois que j'ai fait une recherche, c'était marqué que c'était en. en tournage depuis 2009 ou un truc du genre.
Non. Ah, bon, non, non. Il a été présenté au festival.
Voilà, ouais. Donc faut se méfier des informations internet. Bah,
sur internet, oui. Ouais. Bon,
les sites faut... non mis à jour. J'espère qu'Apriculture
voilà,
est mis à jour.
Là parfaitement.
Bon, voilà, on sait donc à présent la référence. Olivier Barlet, deux autres films composent encore cette rétrospective. Un transport en commun de Diana Gaye et Balle poussière d'Henri Duparc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots du film ou alors du réalisateur ?
Bon, alors là, on est dans deux époques et deux films extrêmement différents.
Quoi. Expliquez-nous peut-être. Commençons par Un transport en commun.
Alors, Un transport en commun, c'est le plus récent.
Ouais.
C'est Diana Gaye. Diana Gaye, c'est une jeune réalisatrice sénégalaise qui d'une part aime bien la danse, qui a une sœur chorégraphe, qui aime bien la musique et la musique chantée, qui aime bien les films de Jacques Demy et qui avait envie de faire quelque chose qui aille dans cette direction-là. Mm-hmm. C'est vraiment une histoire de famille parce que dans le film, on voit Umban Komes Dekset qui était en fait... qui jouait avec son père qui, dans le même groupe de musique. Mmh. Donc, c'était un peu l'envie de revenir sur tous ces éléments-là à la fois. Quoi. Donc, elle fait un truc complètement étonnant, puisque c'est, on prend avec un groupe de gens un taxi brousse, quoi, à 8 personnes dans une 405 break. bien chargé et puis ça y est c'est parti et à l'intérieur de ce taxi brousse donc il y a plein de personnages qui vont à chaque fois chanter leur chanson donc il va y avoir à la fois chorégraphie parce qu'ils sortent de la voiture quand même de temps en temps et chansons et ces chansons sont issues d'une sorte de répertoire presque kitsch hein, ça va dans tous les sens. De la comédie musicale américaine à la chanson italienne, etc., quoi, ou à la chanson française. Et donc, un petit peu, effectivement, dans le style Jacques Demy. Quoi. Mais mine de rien, dans les chansons, dans les comportements, dans les échanges à l'intérieur du taxi, se joue une sociologie d'une société et, qui est la société d'aujourd'hui, avec toutes les tensions qu'on peut avoir, avec le dedans et l'extérieur, etc.
Au niveau du réalisateur, satisfait alors, une nouvelle fois.
Alors Diana Gaye, hein, qui est
Diana
une
Gaye,
femme,
oui,
donc.
Oui.
Quelle était votre question
Pour vous, qui avez l'habitude de voir certainement d'autres films de Diana Gaye, est-ce que ça répond à ce qu'on attendait d'elle finalement est-ce
Oui, alors pas du tout, justement, niveau. Comme je disais au départ, c'est-à-dire que c'était assez inattendu.
Oui.
Mais on la connaissait pas parce qu'elle est jeune. Hein. Par contre, elle a fait un long métrage qui s'appelle Des étoiles, qui est très très beau. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et alors, qui est complètement sur le positionnement de l'Africain dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme de passage, quelque part, celui qui est tout le temps dans un entre-deux. Donc, c'est un film qui se passe dans plusieurs lieux, comme ça, notamment à New York, à Milan, etc. Mmh. Et c'est donc pas seulement des immigrés, c'est des gens qui se déplacent. Et comment on peut avoir une identité dans ce déplacement. Donc c'est ça la recherche du film.
Le deuxième film que je citais, Balle poussière d'Henri Duparc.
Oui. Alors ça c'est vraiment un des grands classiques de la comédie africaine. Moi je trouve que c'est un film qui a un petit peu vieilli maintenant, mais qui est quand même assez fort, quoi, parce que c'est une critique. Direct, pas forcément de la polygamie, mais surtout du patriarcat, à travers un personnage complètement démesuré, comme ça, qui s'appelle Demi-Dieu, hein, il faut le faire. Et puis alors, il a 6 femmes, enfin, il en prend une 6e, ce qui met beaucoup en émoi les 5 précédentes, qui est pourtant en habitude, mais parce que, bon, elle arrive très, très jolie, etc., et puis que finalement, ses intentions ne sont pas forcément d'être la 6e épouse. Et donc se joue la question de savoir s'il va pouvoir passer à l'acte ou pas. Et donc c'était le fameux belote, je belote, rebelote, etc. Il faut voir le film.
Je passe.
Ça, c'est... voilà. C'est devenu absolument une scène d'anthologie. Et les gens se sont dit je passe, belote et rebelote, dans toutes les conversations. Et alors donc il y a les pagneuses et les robeuses. Donc les pagneuses, eh ben, c'est celles qui portent le pagne, donc les traditionnelles, donc
les généralement femmes, les plus femmes vieilles,
anciennes. Voilà. Voilà, et puis les robeuses, eh ben, c'est celles qui tout d'un coup arrivent avec des robes et qui bien sûr font la révolution.
Uh-huh. Oui, un film effectivement intéressant, rapicolant, comme on l'a envie de dire chez nous. Et on peut le voir, ça fait dimanche à 13h. Hein. Il est diffusé plusieurs fois comme d'autres films.
Non, une seule fois.
Une seule fois. Donc dimanche à 13h, on rappelle son nom, Bal Poussière d'Henri Duparc. Ce sera au cinématographe pour être totalement précis. Stéphane ?
Alors je propose pour terminer... Parce que je pense que...
Oui, je pense qu'on arrive gentiment au bout.
Voilà. Donc un autre morceau qui est un titre d'Africando. Alors a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec Bal Poussière, mais en fait, si, parce que le directeur musical d'Africando, c'était justement, hop, de nouveau mes notes, Bonkana Maiga, celui qui a fait justement la musique de Bal Poussière. Et en fait, avant, c'était un passionné de rythme afro-cubain quand il était plus jeune, parce qu'à la base, il est malien, et ensuite, il a migré en Côte d'Ivoire. Il faisait partie des Merveilles du Mali. Et ensuite, donc, au début des années 90, quand donc, les rythmes afro-cubains avaient complètement perdu le devant de la scène, mm-hmm. Je ne sais pas si on peut dire vraiment au profit, mais enfin ça, je laisse la décision aux mélomanes éventuels. Donc quand ces rythmes avaient été un peu mis à l'écart, comme ça, il a décidé de créer un super groupe qui s'est justement appelé Africando, et qui, dans ses premières années, était mené par un trio de chanteurs sénégalais. Donc c'est quand même c'est assez panafricain comme groupe. Et on écoute le morceau Lac B.
Voilà,
l'album Trovador, le premier album du groupe.
Effectivement, voilà de quoi nous quitter. Merci beaucoup Olivier Parlet. Je rappelle que vous êtes critique cinéma à Africulture. Et puis vous serez un peu là tous ces prochains jours, dont principalement samedi, hein, puisqu'il y a une table ronde.
Il y a une table ronde sur la question de la formation au cinéma en Afrique, ouais, qui
formation je pense
sera intéressant. Formation, non, formation au cinéma, avec des personnes qui sortent d'écoles de cinéma ou ne sortent pas d'écoles de cinéma, sont complètement autodidactes.
Voilà.
On va les confronter.
Et ben voilà, ce sera donc rendez-vous pris pour samedi après-midi. Merci beaucoup, Olivier Parlet. Très belle suite de soirée à vous.
Merci.
Et comme l'a dit Stéphane, on se quitte ensemble. Non, nous, on reste, puisqu'on en discute un petit peu du programme demain tout à l'heure. Mais voilà, on prend congé d'Olivier Parlet avec ce titre d'Africando, Lac B.
Le Festival Cinéma d'Afrique, c'est en direct de Montbenon sur Radio Django.